C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler brand safety et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan.
Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai passé un bon week-end, j'espère que toi aussi.
Oui, très bien. On espère que vous aussi qui nous écoutez, vous avez passé un très bon week-end et on va attaquer dans le dur ce lundi matin puisqu'on va parler de sécurité de marque.
Dans le dur, pourquoi dans le dur? Non, dans la brand safety. Vous savez, la brand safety, c'est ce qui vous sert à pas dépenser plein d'argent dans de la publicité digitale qui ne sert à rien. Même oui, néfaste à votre marque.
C'est à peu près ça. Hein. Comment rester brand safe dans un monde 100% social? C'est le sujet de ce Super Daily ce matin. Eh bien oui, le brand safety, ou ce qu'on appelle aussi en français hein, la sécurité des marques, c'est grosso modo hein, les stratégies qui sont mises en place pour garantir que effectivement les publicités en ligne n'apparaissent pas n'importe où et notamment sur des sites web ou des vidéos ou des contenus sur lesquels on ne souhaiterait pas être affiché.
Oui, tout simplement, c'est le fait de vérifier hein, que ces publicités en ligne, que les publicités en ligne d'une marque ne soient pas sur un espace publicitaire de site qui est contraire à la déontologie ou à l'éthique de cette marque et qui du coup pourrait être néfaste même à la publicité de la marque. C'est-à-dire que si vous vendez de la viande, il vaut mieux éviter de faire de la pub auprès de vegan par exemple.
Oui,
c'est mieux.
Ou être en interstitiel dans une vidéo qui parle d'intoxication alimentaire par exemple.
Exactement.
Voilà. Donc, on a pas mal, forcément, vous imaginez qu'il y a pas mal d'exemples comme ça et pas mal de contre-exemples. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites ces derniers temps et il y a eu pas mal de bad buzz hein, autour de contenus de marques hein, qui se plaçaient pas au bon endroit. Et c'est notamment la programmatique hein, qui a plongé un peu tout le monde dans la tourmente. Qu'est-ce que c'est la programmatique? Eh ben, c'est l'achat automatisé. Oui. D'espace publicitaire, puis surtout la programmation de campagnes pub sur le web. Et on sait que c'est en plein essor depuis, on va dire 5-6 ans. Hein.
Et c'est YouTube qu'on a surtout pâti, puisqu'il y a quoi, un an et quelques, il y a eu un bad buzz sur YouTube en Angleterre, avec le gouvernement anglais qui a payé des pubs en pré-roll sur YouTube et qui s'est retrouvé en fait avec des pubs qui étaient au milieu de vidéos violentes et pas du tout appropriées au message que faisait passer le gouvernement anglais. Et c'est suite à ça aussi, par exemple, qu'énormément de marques ont commencé à tirer un peu la sonnette d'alarme et énormément de groupes publicitaires aussi sur le fait de dépenser des sommes un peu astronomiques sur le digital.
Oui, tu as raison. En avril 2018, CNN qui rapportait avoir trouvé, attention, des annonces de plus de 300 entreprises et organisations sur des chaînes YouTube, effectivement, qui mettaient en avant des nationalistes blancs, des nazis, de la pédophilie, des théories du complot, de la propagande nord-coréenne, le cadeau, voilà, juste parfait. Et tout ça à cause de la programmatique. On va juste revenir là-dessus.
Vas-y.
Et cette automatisation publicitaire, avant on achetait de la pub un peu comme tu faisais à l'ancienne, tu sais, hein, je vais m'acheter un encart dans un magazine, je vais acheter dans le Figaro ou dans Elle Magazine, parce que je sais que c'est un contenu de qualité, mon audience.
Qui est en rapport avec la cible que je cherche, etc.
Voilà, et bim, j'achète cet espace, ça me coûte tant. Et puis, effectivement, en publicitaire digital, au début, c'est ce qu'il y avait. Hein. Tu achetais un espace sur l'équipe.fr, tu achetais un espace sur RTL.fr en fonction de ton audience. Et puis, petit à petit, avec notamment l'essor et l'apogée des réseaux sociaux, on a basculé dans une ère de la programmatique, c'est-à-dire une automatisation qui permet d'acheter une audience et une affinité là où on achetait avant vraiment un espace publicitaire. Sauf que les algorithmes et ce qu'on appelle le RTB, hein, le Real-Time Bidding comme paris, achats, connaissent des limites et puis elles exposent les marques à des risques importants parce que c'est pas parce que tu cibles les gens sur leur IP, leur comportement, leur profil d'utilisateur que tu te garantis de là où va être ta publicité.
Et de les toucher au bon moment dans leur consommation internet aussi.
Exactement.
Et c'est important. Et aujourd'hui, alors moi j'ai un petit chiffre là-dessus, surtout sur les vidéos publicitaires. On sait aujourd'hui qu'il y a environ 9% des impressions vidéo qui sont jugées non-brand safe. Ce qui veut dire, en français dans le texte, qu'il y a une vidéo sur 10 de votre marque en publicitaire qui se fait un endroit où elle ne devrait pas se faire et où elle pourrait même être néfaste à votre marque, comme on le disait, sur des sites qui sont inappropriés ou des vidéos YouTube qui sont inappropriées ou des contenus même sur les réseaux sociaux qui sont inappropriés.
Absolument. Et effectivement, pourquoi il faut s'en préoccuper ? Et ben, c'est qu'une publicité qui serait placée à tort, eh ben, ça peut ruiner la réputation de votre marque. Hein. Il y a une étude qui est sortie en septembre 2017. Alors, on est désolé, elle date un petit peu, mais elle vaut quand même de l'or. C'est une étude d'Integral Ad Science qui dit que 50% des consommateurs hésiteraient, voire boycotteraient les marques dont les publicités auraient été associées à des contenus offensants ou choquants. 50% des consos et à contrario, 63% d'entre eux déclarent être favorablement influencés si la publicité est diffusée dans un média qu'ils estiment et de confiance. Donc, c'est clair qu'aux yeux d'un consommateur moyen, soyons clairs, placer une annonce à côté d'un contenu, ça signifie qu'on le sponsorise, ce contenu. Hein.
Bien sûr, il ne voit pas la différence. Un conso moyen ne comprend pas pourquoi votre pub passe à cet endroit-là. Si elle passe à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison et c'est que, quelque part, vous êtes en train d'accepter le site ou les contenus qu'il y a autour de vous, autour de votre pub.
Voilà. Donc, on a un certain nombre de recommandations.
Ouais. Alors, faut peut-être expliquer aussi pourquoi et comment ça arrive. Tout ça, c'est aussi parce que les budgets publicitaires ont explosé en quelques années et qu'on veut absolument avoir un retour sur investissement intéressant. Et quand on calcule les retours d'investissement, bien souvent, on calcule seulement la quantité d'impression, la quantité de portée que va avoir notre publicité. Rarement, la qualité de ces impressions et la qualité de cette portée, qui est beaucoup plus compliquée et difficile à mesurer. Et c'est justement ces questions de brand safety, c'est comment on réfléchit à la qualité de la diffusion de notre publicité.
Voilà. Oui, alors là, on en revient un peu toujours à la même question hein, quand il s'agit de social media, c'est le rapport, la non-prise en compte malheureusement dans la plupart des KPI et des mesures, des metrics ROI du facteur humain, du facteur psychologique. Hein, et donc, la brand safety, c'est exactement ça. C'est effectivement, on peut avoir des metrics qui ont l'air très très bonnes, investir du coup des budgets conséquents, mais se retrouver embarqué dans des affaires qui dépasseraient notre marque et sur laquelle notre marque souhaiterait ne pas être affichée. Écoutez, on est venu ce matin avec 5 recommandations qui doivent vous permettre d'avoir un regard peut-être plus affûté hein, sur votre brand safety dans un contexte social media. La première reco qu'on peut faire, c'est qu'en publicitaire, ne pas oublier de jouer la carte de l'exclusion dans vos stratégies. Voilà, il y a beaucoup d'options qui sont mises à votre disposition, notamment par Facebook, mais aussi par YouTube. Et si on revient à Facebook, via l'Ads Manager, vous avez la possibilité, en tant qu'annonceur, d'exclure des catégories prédéterminées, telles que, par exemple, les jeux de hasard, les rencontres amoureuses, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus. Et bien souvent, des budgets publicités sont investis sans trop d'exclusion, et alors que c'est quand même là que ça se joue.
Ah, c'est l'importance de la qualité du ciblage, hein, je pense, là qu'on est en train de toucher. Et plus le ciblage est fin, plus on est bon là-dessus, en excluant les bonnes personnes ou le bon type de personnes et en allant essayer de toucher les bonnes communautés aux bons endroits, mieux notre publicité va être comprise et va avoir un impact sur les personnes qui la voient.
Ouais, en fait, il y a effectivement le ciblage, c'est une chose. Et puis après, il y a l'exclusion dans ce ciblage. Et souvent, on oublie l'exclusion en se disant, c'est bon, j'ai touché mon audience. Ouais. Sauf que, je sais pas, par exemple, si tu es une marque qui propose des produits pour enfants, t'as pas envie que ta publicité elle apparaisse dans un contenu qui serait dans l'audience network, c'est-à-dire dans les sites web mis à disposition par Facebook pour faire du publicitaire. Un contenu qui serait un contenu adulte, par exemple, parce que pour ta marque, pour la sécurité de ta marque, c'est pas terrible. Mmh. Et ça, tu peux le faire en faisant de l'exclusion. Donc, tu peux même décider des sites web que tu souhaites exclure, nominativement. Hein. Tu peux décider de carrément couper Audience Network si tu veux être sûr de l'endroit où ça se situe. Tu peux décider aussi vraiment d'exclure des thématiques, des audiences cibles en te disant là-dessus, je vais au casse-pipe, c'est pas assez sûr pour ma marque.
Effectivement, les exclusions. Faut se mettre en tête que l'exclusion fait partie à part entière du ciblage et qu'un ciblage ne sera jamais complet s'il n'y a pas d'exclusion à l'intérieur.
Voilà, deuxième reco qu'on peut donner, c'est attention aux publicités intégrées, hein, parce que c'est vraiment ça le souci. C'est il faut prendre en compte ces publicités qui sont intégrées. Par exemple, la plupart des gens savent que les publicités qui apparaissent dans le feed d'actu, dans le flux, bien souvent, elles ne sont pas liées au contenu qu'il y a au-dessus et en dessous. Ça, je pense que globalement, vos consommateurs
comme ça,
le savent.
Nulle part, ouais.
Par contre, les vidéos interstitielles, c'est ce que tu disais sur YouTube, mais pré-roll. Ça existe aussi maintenant en pré-roll sur Facebook, hein, au milieu de la publicité. Ça, c'est plus ennuyeux parce que là, vraiment, l'assimilation entre votre publicité et le contenu est très, très proche. Donc ça, sachez que éventuellement vous pouvez couper hein, pareil dans Facebook et dire nous, on ne veut pas être présent dans ces contenus intégrés, donc que ça soit des instant articles ou des vidéos.
Et oui, là, il y a un gros risque, comme on disait tout à l'heure, d'être au milieu d'une vidéo qui n'a rien à voir avec, avec ce que nous, on vend ou ce qu'on promeut sur les réseaux sociaux. Et la cible qui est touchée à ce moment-là, soit c'est une cible qui vous intéresse absolument pas, soit c'est peut-être une cible qui vous intéresse, mais comme vous sortez à un mauvais moment de sa consommation sur Internet, elle va vous assimiler à quelque chose qui est négatif. Et même dans l'inconscient, en fait, il y a même une part un petit peu d'inconscient aussi dans tout ça, c'est pas forcément directement du conscient. Quand il va revoir votre marque, il va penser à ce moment-là qui est négatif dans sa tête. Et du coup, bah, c'est pas comme ça qu'on fait de la publicité, de la bonne publicité.
Et oui, et troisième reco qu'on pourrait donner, c'est prendre en compte l'actualité. Ça, c'est quand même la base. Hein. Suivre de près non seulement ses posts organiques, parce que le nombre de bugs qui se produisent avec des posts publiés programmés un mois à l'avance et qui, arrivent dans un contexte qui n'est pas favorable. Mais il existe exactement la même chose dans les publicités. C'est quand même la moindre des choses de suivre les pubs qu'on a en cours et de ne pas juste les laisser tourner quand le contexte de l'actualité est mauvaise. Un exemple tragique, hein, c'était pendant les attentats de Paris. Il y a quand même un paquet de monde qui se sont retrouvés avec des publicités qui tournait sur Facebook le lendemain des attentats de Paris et qui disait venez visiter Paris et si vous passiez qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end à Paris et si vous sortiez etc. Tout ça évidemment en termes d'image de marque c'est une catastrophe.
Bien sûr et puis là encore tu prends des exemples les plus gentils et simples possibles mais il y a aussi des marques au milieu de tout ça qui des fois ont le mauvais jeu de mots ou la mauvaise blague ou le mauvais bon mot qui en temps normal n'aurait eu rien de choquant mais qui forcément le lendemain d'attentat dans une ville comme Paris choque un petit peu tout le monde et ça c'est bien sûr il faut être ultra attentif à tout ce qui sort là-dessus.
Si t'as un poste programmé à l'avance et ou une publicité avec le terme explosif en disant une offre explosive
promotion explosive
et qu'elle sort malgré ta vigilance le lendemain d'un attentat forcément
oui, parler de feu le lendemain d'un incendie aussi comme c'est ces derniers temps à Paris, voilà.
Donc ça c'est les choses sur lesquelles vraiment il faut avoir une vigilance et là on en appelle à notre responsabilité de marketeur, c'est la moindre des choses de faire en sorte de ne pas laisser tourner des choses, des campagnes, des posts organiques programmés sans avoir une vraie vigilance sur ce qui se raconte dans notre monde. Quatrième reco qu'on pourrait donner, c'est attention aux suggestions des pages par Facebook. Ça, c'est un petit peu plus subtil, mais figurez-vous que Facebook propose une fonction de suggestion de page. Tu sais, quand tu likes une page, il propose d'autres pages qui pourraient t'intéresser.
Oui, bien sûr.
À l'inverse, quand tu. Donc, ça, tu te dis, c'est plutôt intéressant, c'est pratique, puis c'est assez cool parce que ça permet peut-être de gonfler la visibilité de ma page vis-à-vis d'une audience qui serait assez similaire. Sauf que c'est pareil, c'est de l'algorithme. Et tu peux te retrouver à avoir ta page, ta marque, associée à des comptes, des pages auxquelles tu ne souhaiterais pas être associé. Donc, si je suis, une marque agroalimentaire ou une marque de service et que les suggestions et que quelqu'un clique sur « like ma page » et puis que derrière, on lui suggère 3-4 pages de partis politiques sur lesquelles moi, je ne veux rien avoir à voir avec, c'est problématique. Et c'est juste l'algorithme qui a fait sa petite tambouille. Mais en termes de perception de marque, c'est très, très mauvais. Et donc là, vous avez la possibilité, sachez-le, de couper cette option dans Facebook.
Oui, on peut ne pas apparaître dans cette option-là. Ouais.
Voilà, donc c'est suggestion de page. Vous allez dans vos paramètres Facebook et puis vous essayez de trouver cet endroit où ça se trouve, page suggérée. Et s'il vous plaît, rendez-vous un service, là. Coupez cette option parce que...
Après, il faut regarder. Hein. C'est à vous d'aller voir un petit peu avec qui vous êtes associé. Ça peut être intéressant, mais sachez qu'en plus, quand vous avez cette option... Vous êtes associé à des comptes où vous allez apparaître sur ces comptes-là comme page un peu similaire, mais sur votre compte aussi, vous allez avoir des boutons de sortie vers d'autres pages similaires à la vôtre. Donc, c'est un peu qui tout double.
Ouais, par exemple, je te donne un exemple, c'était Orange. Il y a des chances que tu sois associé derrière avec des pages qui vont dire Orange est une arnaque, comment quitter Orange pour free, etc.
Ouais.
Donc, tu n'as pas envie d'être associé à ces contenus-là. Évidemment, en termes de brand safety, c'est la catastrophe. Allez, Cinquième recommandation, et ben, et celle-ci, celle sur laquelle on va vraiment insister, c'est que le brand safety, ça passe aussi dans les commentaires de vos propres publications. Eh oui, eh oui. Que se passe-t-il dans les commentaires de vos posts? Qu'est-ce qui s'y raconte exactement? Est-ce que la sécurité de votre marque, elle est optimum là-dessus? Est-ce qu'il y a des commentaires négatifs sur le produit, des plaintes de clients? Est-ce qu'il y a des questions sur le service client qui sont sans réponse? Est-ce qu'il y a des liens vers des produits de contrefaçon? Est-ce qu'il y a des propos racistes, diffamatoires, etc.? C'est indispensable d'avoir un œil sur ce qui se passe dans vos commentaires.
Et puis, ça recoupe aussi une des recommandations que tu donnais juste avant, qui est de dire, si vous suivez ces commentaires-là, vous serez prévenu s'il est en train de sortir au mauvais endroit ou au mauvais moment par rapport à une actualité, etc. Si vous êtes attentif aux commentaires, vous le verrez tout de suite et vous pourrez agir. Alors que si vous n'avez rien à faire des commentaires, vous allez laisser en plus sûrement un débat négatif naître en dessous de votre post publicitaire. Et en plus, vous ne couperez pas votre pub parce que vous ne verrez pas tout ça.
Et cette question des commentaires, elle n'est pas que dans les posts organiques. Et vraiment, soulignons ce matin l'importance d'avoir un œil sur ce qui se raconte en commentaire dans vos dark posts, parce que là, c'est vraiment crucial. Le nombre de fois où on se retrouve à tomber sur un contenu publicitaire, et moi, je vais voir les commentaires parce que c'est mon côté machiavélique, de voir s'il y a des réponses de CM là-dessus, et voir des vagues et des vagues de gens qui se plaignent du service, qui disent c'est une arnaque, qui disent j'en ai rien à faire de ce que vous essayez de me vendre.
De la pub, du coup.
Et personne pour y répondre. Donc ça, c'est notamment le cas sur Facebook, et c'est bien souvent oublié sur Instagram, pour une simple et bonne raison, c'est que dans Insta, tu ne vois pas les commentaires issus de tes posts, de tes boosts publicitaires. Et donc, bien souvent, on se dit, et les agences se disent, hein, « Oh, on s'en fiche, personne ne les voit vraiment, ces commentaires. » Eh bien, il se trouve que si, parce que tu vas aller dépenser du budget et mettre en face une publicité en face des gens, et derrière, tu as le risque qu'il y ait 200, 300 commentaires extrêmement néfastes, circulant des mauvaises informations sur ta marque, sur ton produit. Donc là aussi, il faut y être dans les dark posts, et dans les dark posts Instagram notamment. Voilà quelques recommandations ce matin pour parler de brand safety. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Adjan, sur ce sujet?
Alors moi, j'avais un petit clin d'œil sur le sujet pour vous dire quand même que c'est une question qui est vraiment importante du côté des marques, puisque est né il y a quelque temps un label digital AdTrust, alors qui est plus en lien avec des sites internet que directement sur Facebook. Mais ou le social media quoi, mais c'est en gros c'est un label qui a déjà labellisé plusieurs sites hein, comme Télérama, Téléstar, L'Obs, Le Monde, Le Figaro, Voix du Nord, Quoi International, France TV, Gradia ou encore Huffington Post. Et en fait, ces sites doivent amener des garanties hein, pour pouvoir obtenir ce label, des garanties qui sont prises par des mesures, par des instituts spécialisés qui viennent mesurer un peu tout ça. Et dans ces garanties, il y a 5 garanties. Il y a garantir la brand safety, donc assurer aux marques la sécurité hein, des environnements dans lesquels ils vont apparaître. Il y a aussi optimiser la visibilité de la publication en ligne, lutter contre la fraude, améliorer l'expérience utilisateur et mieux informer les internautes en matière de protection de données. Donc, c'est un premier pas vers une prise de conscience, en tout cas autour de cette brand safety. Et c'est justement des annonceurs, des éditeurs qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi à comment on pouvait arriver à produire un quelque chose de qualité. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, j'ai trouvé un chiffre intéressant sur l'investissement publicitaire qui est fait en digital et il existe bien sûr un énorme duopole de Google et Facebook qui à eux deux mangent 78% des investissements publicitaires qui sont faits sur en digital, alors qu'ils ne représentent que 36% du temps utilisateur internet. Donc je trouvais ce chiffre assez étonnant et intéressant justement dans cette façon de manger tout le publicitaire, les budgets publicitaires. Mais en même temps, je trouve pas ça si étonnant parce que peut-être qu'ils ne représentent que 36% du temps utilisateur à eux deux, mais il y a pas de troisième ou de quatrième, cinquième groupe qui pourrait venir les concurrencer en termes de temps internet. Donc c'est beaucoup plus simple de payer du budget publicitaire sur des groupes où on sait qu'il va y avoir quand même un minimum de temps passé dessus.
Tout à fait. Et ben voilà, donc effectivement, gardez un œil hein, sur votre sécurité de marque. Où est-ce que votre marque s'affiche? À côté de quoi elle s'affiche? Qu'est-ce que les gens racontent sur votre marque? C'est la base. Hein. On ne partait pas seulement avec, comme dirait mon grand-père, votre bite et votre couteau sur les plateformes sociales sans avoir une vigilance absolue là-dessus.
Si vous n'étiez pas d'accord avec cette explosion de Thibaut, vous avez le droit de laisser un message à Supernatif sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Et bien sûr, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Alors, n'hésitez pas vraiment à nous laisser un message ou une note. Ça serait parfait pour nous.
Oui, voilà, une petite note. Allez, on vous remercie d'avance et on vous donne rendez-vous dès demain.
Merci, salut. Ciao à tous.